Oh là là, ça promet. Ouais. Olivier Niquet, bonjour.
Bonjour.
Comment a été votre salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean?
Très agréable. Oui, j'adore ça, faire des salons du livre,
vous
rencontrer
des gens. Vous adorez ça.
C'est bizarre, hein?
Hey, c'est tellement bizarre. Parce qu'on dirait que ça colle pas tellement au personnage public que vous nous présentez, là, le gars gêné, introverti.
C'est ça, mais justement, d'ailleurs, la moitié des personnes qui viennent me voir disent « Je sais que t'aimes pas ça, là, qu'on te parle, mais j'aime ce que tu fais. » Puis là, le monde qui vient te dire qui t'aime, c'est quand même pas pire.
Ah,
j'aime
ce
feeling-là. Puis aussi, les gens qui viennent me parler, ils savent je suis qui, là. Ils connaissent mon personnage, puis ils n'ont pas des très hautes attentes. Fait que je les surprends toujours, genre en leur disant « Comment ça va? » Des trucs comme ça. Je dis « Wow, il parle, cet homme. »
Ouais. Mais vous êtes capable de recevoir l'amour?
Oui, je suis pas très bon, mais je la reçois.
Ça,
oui.
Ça, c'est la partie la plus bizarre, je trouve, salons du livre.
Je ne sais pas quoi répondre souvent.
Oui. Simon et Tyler, est-ce que vous avez déjà visité un salon du livre?
Oui.
J'ai des livres dans mon salon.
Oui, ouais, c'est super. Ouais. Moi, j'ai déjà fait un salon du livre.
D'auteur?
Oui, j'avais une BD, ça s'appelait « L'étrange homme-mouche ».
Savez-vous quoi? On en a parlé en fin de semaine au Salon du livre, parce qu'il y a quelqu'un qui, je crois, est la voisine d'une de vos tantes qui vous connaît très bien, visiblement.
Oui.
Puis elle m'a dit que... Mais quelqu'un m'a parlé de vous, puis m'a parlé que vous avez déjà vu au Salon du livre.
Oui, j'ai fait vraiment une bonne impression à l'époque.
Oui, comment vous êtes dans un Salon du livre?
Je suis très discret souvent. Je me cache derrière des auteurs plus connus. Et je signe à leur place. Je sais que François Morassé était là aussi à l'époque. Et il était si drôle dans le temps.
Je pense que oui. Je le connais pas personnellement.
Cette année au Saguenay, il y avait Claude Legault.
Oui.
Puis ça crée un immense embouteillage.
Qu'est-ce qu'il a écrit, Claude Legault?
Je ne sais pas. Okay. Je pense que c'est un truc sur une galaxie près de chez vous, peut-être, en tout cas. C'était juste comme avant notre kiosque, fait qu'il y avait un gros, gros embouteillage avant d'arriver chez nous.
Puis de quoi viennent vous parler les gens, Olivier?
Ben là, j'étais là pour un livre jeunesse. Alors, les gens venaient me parler de radio et de mon livre sur l'introversion.
C'est ça, ça vient du sens. Parce que moi, je pense que j'aime pas les salons du livre parce que j'ai écrit des livres sur des traumatismes d'enfance, mort prématurée d'un parent, puis toutes ces choses-là. Donc, les gens font la file pour venir un peu me domper leur trauma. Puis, je trouve ça super généreux de leur part, mais en même temps, mon doux, je suis pas outillée pour recevoir ces personnes-là. Tu sais, j'ai moi-même beaucoup de traumatismes à régler, là. Je suis pas capable de penser les blessures d'autrui. Fait qu'on dirait que ça me fait juste paniquer ce flux de gens-là, alors que moi, je sais parler aux gens puis que je les aime en général. Donc, j'ai de la misère à vous imaginer dans cette situation-là.
Probablement que si j'écrivais un livre sur les traumatismes, j'irais pas au Salon du livre.
OK, c'est
une bonne idée. Ça peut être traumatisant, par contre, à être introverti, mais c'est pas si pire. Non, mais les gens, ils viennent me dire... Des fois, il y a des gens qui viennent me dire que j'ai changé leur vie avec mon livre. C'est quand même... pas pire.
Comment vous avez fait ça?
Ben parce qu'ils se sont découverts qu'ils n'étaient pas débiles là, d'être un petit peu renfermés, un petit peu discrets. Tu sais, c'est correct. On peut vivre quand même une belle vie malgré ça. Puis aussi des gens qui comprennent mieux leur conjoint ou conjointe qui sont comme ça. Fait que j'ai sauvé des couples aussi, sûrement.
Thérapeute. Simon et Tyler, est-ce qu'Olivier a déjà sauvé quoi que ce soit chez vous?
Il
nous a sauvé du temps.
Oui, aussi.
J'ai fait un livre pour aller au karaoké.
C'est vrai. Son livre, moi, son livre a sauvé ma vie, effectivement. Je le portais lorsque je me suis fait tirer dessus.
Oui.
Et le livre a arrêté là-bas. J'en avais deux. Okay.
Puis, pas eu de problème sur la route, Olivier? Parce qu'il y a une hausse de rage au volant. Selon Le Devoir, 20% d'augmentation entre 2022 et 2024 pour l'ensemble des 10 corps policiers qui ont dévoilé leurs données au devoir, quand même.
Moi, je me suis pas chicané sur la route. J'ai vu deux orignaux dans le parc.
Mais ils étaient de bonne humeur.
Oui, ils étaient bien corrects. Ils étaient l'autre bord de la clôture. Mais j'ai eu un petit épisode là, de rage au volant dernièrement. Mais je l'ai déjà raconté dans mon balado ce matin. Puis là,
épisode de rage au volant. Là. C'est quelqu'un qui vous a gentiment interpellé parce que vous étiez en deux lignes.
Ça aurait pu mal virer si j'avais été quelqu'un de violent.
Vous avez quand même dit dans votre balado qu'il était quand même souriant. C'est pas de la rage au volant, Simon et Tyler, rage au volant, coupable, victime?
Moi, j'ai l'intention, quand j'obtiens mon permis de conduire, d'être fâché tout le temps en conduisant.
Est-ce que vous n'avez pas de permis pour vrai?
J'ai mon permis apprenti.
Ah oui?
Parce que je prends mon temps.
Pratiquez-vous beaucoup?
Pas tant, j'ai peur sur la route. J'ai plus... Mais la peur, ça mène à la rage.
Oui.
Ah oui, dans votre continuum d'émotions,
ben, c'est
vous,
ça
c'est
que
de
j'ai vu dans les
à
autres,
la
là, souvent quand les gens autour de moi ont, sont fâchés, ça vient d'une peur.
Ah, oh, c'est...
c'est vrai que c'est profond quand même, finalement.
Honnêtement, c'est ça, c'est pour je pensais que vous étiez deux hommes, tu sais, légers. Je pensais qu'avec vous, on était dans le superficiel, mais finalement, vous êtes là pour parler de vos émotions, Simon et Tyler.
Ah,
c'est pas quelque chose qui vous fait peur, ça.
Non, pas du tout.
Aller loin.
Si c'était pas ça mon intention.
Mais en même temps.
Je suis désolée.
Non, c'est vraiment correct. Je voulais juste terminer avec une anecdote personnelle. Je me suis fait 4 câlins en m'en venant ce matin.
Ah,
absolument. Il y a un homme qui m'a interpellé.
4 câlins.
Exactement. 4 câlins. Un homme qui m'a fait un. De même, pendant que je marchais, oui, pour aller au métro en pleine grève à 9h le matin. Est-ce que ça vous arrive, ça, des fois?
De 4 calés du monde?
Oui, régulièrement. D'être victime ou de le faire?
Non. Ben moi, je pense qu'une fois, je compensais que j'avais 4 calés quelqu'un, mais c'est parce que je mangeais un petit bonbon super surette.
Si vous aviez à me complimenter dans la rue, qu'est-ce que vous pourriez dire de manière polie?
Vous avez de beaux écouteurs.
Très bon. 29 septembre, il fait beau. On est bien, j'ai de beaux écouteurs. Je m'appelle Rosamie Autain-Témorin. Je suis là parce que Jean-Sébastien Girard est en Espagne. Je vous rappelle que le lundi, c'est théoriquement sa journée de carrousel, mais je suis vraiment contente qu'il soit pas là aujourd'hui parce que ça me permet de passer du temps avec Simon et Tyler.
Allô!
Enchanté!
Comment ça va?
On se parle quand même depuis 10 minutes.
Oui,
je suis tellement fan de votre duo à titre d'auditrice, mais je suis tellement terrifiée à titre d'animatrice. Je ne sais pas comment interagir avec vous.
On a amené un serpent.
Cette émission pourrait être un cauchemar. Bienvenue à la journée est encore jeune.
Ça part bien quand même parce que Jean-Sébastien, lui, les appelle Tyler et Timon.
Oui, Taylor aussi, beaucoup.
Taylor,
C'est pas si compliqué. On va parler avec Frédéric Gagnon de la chaire Raoul Dandurand dans quelques minutes. Mais d'abord, Olivier Niquet, vous allez bien?
Très bien, merci.
Vous avez eu une grosse fin de semaine,
j'arrive
pour tout savoir.
J'arrive Saguenay, rencontrer plein d'auditeurs agréables, c'était très agréable, c'était le fun.
Il y en a eu des désagréables.
Ah, beaucoup. Non, c'était très agréable.
Ah.
Et c'était des gens agréables.
Ah, OK, j'ai
doublement
compris
agréables.
Certains désagréables.
Laissez-moi passer à ça.
Olivier, Niquette, 24-7.
Ben, beaucoup de choses en politique québécoise dans les derniers jours. D'abord, le PQ a fait un sondage auprès de ses membres et pas mal tout le monde est contre les prières de rue et contre les signes religieux à l'école primaire. Petite subtilité, par contre, là, on parle plus de signes religieux ostentatoires du côté du PQ.
Interdiction pour tous les élèves du primaire des tenues et signes religieux ostensibles.
Le kirpan, est-ce que c'est un signe ostensible?
Écoutez, je n'ai pas, je peux vous revenir, là.
Est-ce que ça va prendre des diagrammes un peu comme ceux de Bernard Drinville?
Non, on a utilisé le mot ostensible parce qu'on se disait, on veut une uniformité puis on veut un message qui est clair, mais on donne quand même, avec le mot ostensible, une marge de manœuvre pour... particularités individuelles.
La loi sur la laïcité, à l'époque, on parlait beaucoup de ostentatoire. Est-ce que vous faites une distinction entre les deux termes?
Je vous référerai sur les deux différences, là, mais ça donne un espace pour certains signes qui sont relativement discrets et qui ne changent pas grand-chose.
Ostensible, c'est moins ostentatoire qu'ostentatoire?
Bon, c'est clair, okay. Hein, quand même. Donc oui, ostensible, c'est un mot moins ostentatoire que le mot ostentatoire, si j'ai bien compris. Bref, ça me donne un petit peu l'impression que tous les signes là, qu'on s'est demandé pendant 10 ans si c'était ostentatoire ou pas, là, on va se demander d'ici la prochaine élection si c'est ostensible ou pas. FML, comme disent les jeunes d'il y a 10 ans. Suite à ça, ben, chez nos collègues de Tout peut arriver, la professeure de l'UQAM, Rachel Chagnon, a ostensiblement exprimé son désaccord avec cette mesure.
Est-ce que c'est si épouvantable qu'un petit enfant québécois soit confronté à la réalité d'un enfant qui a un autre vécu que le vécu catholique? Est-ce que c'est si troublant et si épouvantable qu'on doive s'assurer que tous les enfants sont pareils, qu'ils sont tous dans le même moule et pourquoi pas tous blonds aux yeux bleus, tant qu'à faire? Bon, oui, j'avoue, ça me
hérisse. Vous allez là,
profondément. Mais oui, pourquoi pas, tu sais.
Je pense quand même qu'il y a plusieurs raisons de pourquoi pas. Philippe Cipriani avait l'air un petit peu...
Saisi.
Vous avez entendu Paul Saint-Pierre Plamondon tantôt évoquer les petits diagrammes de Bernard Drinville sur les signes religieux, mais le nouveau ministre de l'Environnement a troqué les dessins de kirpans pour des pourcentages de chars électriques et il les traîne même en point de presse.
Alors, j'ai préparé un petit tableau, je trouve ça toujours plus clair. Alors, l'ancien scénario pour 2025 prévoyait une interdiction de vendre des véhicules à essence neufs. Bien, aujourd'hui, je vous annonce que nous levons l'interdiction de vendre des véhicules à essence neuf.
Bon, pour les gens à la radio, sachez qu'en gros, sur son tableau, c'est écrit 100% puis 90%. Puis là, il pointe ces affaires-là. Ça a l'air que ça prenait un tableau, donc, pour qu'on comprenne que les cibles de voitures électriques pour 2035 ont changé. Il a fallu couper un arbre pour imprimer un carton qui nous annonce qu'on va pouvoir acheter plus de véhicules qui brûlent du gaz. Donc, une pierre deux coups, j'imagine. Par contre, on dirait que les journalistes auraient eu peut-être besoin d'un PowerPoint pour mieux comprendre.
90%, ça devient optionnel, justement.
Non. Non, c'est pas optionnel.
En 2035,
ouais.
Est-ce qu'il se vend encore des véhicules thermiques avec votre nouvelle norme? Parce que
oui.
Dans la cible de 90%, là, c'est pas subdivisé en cibles électriques hybrides rechargeables. Donc, on pourrait presque juste avoir des véhicules hybrides rechargeables, presque pas d'auto électrique.
Oui, mais t'atteindrais pas ton 90 à ce moment-là.
À partir de quelle proportion?
Il n'y a pas de proportion de fixer. L'important, c'est d'atteindre le 90.
Bref, son tableau, c'est un gros fail, comme disent les jeunes d'il y a 5 ans. Il y a pas mal juste, en fait, Sébastien Bovet à RDI qui avait compris.
Il n'y aura plus d'obligation de vendre 100% de véhicules électriques neufs en 2035. Le ministre de l'Environnement est avec nous. Monsieur Drainville, bonsoir.
Oups.
Donc, si je comprends bien, M. Bovet, je n'ai pas besoin d'utiliser mon carton.
On vous a scoopé avec
vous
votre...
Vous aviez déjà un extrait?
Et on a compris ce que vous avez annoncé.
Vous êtes très fort.
Très fort, oui, notre Sébastien. Pauvre petit, il avait amené son carton pour rien. Quand même, M. Drainville nous avait averti qu'il commençait là, tout juste son nouveau poste, qu'il fallait être compréhensif, il est un peu en formation. Et entre autres, il a entre autres expliqué au micro de mon nouvel ami, Martin Thomas Côté de Kick FM, que j'ai rencontré en fin de semaine au Saguenay, un gars très sympathique, même s'il y avait des critiques dures mais justes à mon endroit. Mais je m'égare, Bernard, donc, lui a demandé d'être patient.
Regarde, ça fait à peu près 2 semaines là, que je suis ministre de l'Environnement. Là, fait que, tu sais, on va prendre notre gaz égal, comme on dit.
Peut-être pas la meilleure des expressions pour un ministre de l'Environnement qui se garoche pour réduire les attentes en matière de consommation de gaz. Il a aussi dit qu'il n'y avait pas tellement de contrôle sur les constructeurs automobiles.
Oui, vous nous donnez le choix, mais ça va mettre une pression sur le véhicule à essence d'en faire. Là. D'après moi, on l'aura pas au même prix s'il n'en reste qu'à peine 10 %. Là.
Ben oui, mais là, Martin, à un moment donné, là, moi, je m'appelle pas Monsieur Honda, là. Je veux dire, que les fabricants s'ajustent au marché.
Voilà, c'est pas Monsieur Honda, c'est peut-être plutôt Monsieur Corvette, dans le sens que pour l'instant, il n'est pas à la hauteur des attentes, mettons. Sébastien Bovet, lui aussi, a parlé de l'idée d'imposer un péage sur le futur troisième lien.
Alors, Bernard Drainville, il est équipe péage ou équipe pas de péage?
Bernard Drainville, il est équipe... mettons tout en œuvre pour que le troisième lien se fasse,
ouais.
Et évaluons toutes les options pour qu'il se fasse. Et parmi ces options, il y a effectivement le péage.
OK, mais ça, c'est l'équipe patinage.
Évidemment,
l'équipe patinage. Et on parle plus de patins de fantaisie que de patins de vitesse ici. Le nouveau ministre des Transports, par contre, Jonathan Julien, lui, il est moins du type à escapade.
Intellectuellement, on est favorable à ça. Naturellement, c'est comme de venir dire quelle nappe je vais mettre sur ma table dans un restaurant que j'ai pas encore trouvé où j'allais le bâtir. Mais pour nous, intellectuellement, on dit que c'est une bonne chose de l'envisager.
Favorable intellectuellement, l'êtes-vous politiquement?
Ben oui, sinon je serais pas ici pour vous en parler.
Voilà, première fois quand même que ce parti pense intellectuellement au troisième lien. Avant, il s'est juste ressenti, j'ai l'impression. C'est une bonne nouvelle de ce côté-là, sauf que je ne suis pas sûr de la métaphore de la nappe. Là.
Non?
Je pense que ce n'est pas vraiment approprié pour un projet qui a l'air d'avoir été dessiné sur le coin d'un napperon chez Normandin.
Oh.
Et enfin, c'était le congrès de la CAQ en fin de semaine. François Legault en a profité pour retrouver sa verve.
C'est important, entre autres, à Montréal, de rester ce qu'on est. Et on est un parti nationaliste à la CAQ et on va le démontrer encore une fois. Il n'y a pas personne depuis René Lévesque qui en a fait plus que nous autres, puis on va en faire encore plus dans les prochains mois.
Bravo. C'est vrai, René Lévesque a nationalisé l'hydroélectricité. François Legault a nationalisé 2 matchs hors concours des Kings de Los Angeles. C'est pas rien. Et M. Legault s'est aussi comparé à un autre héros mythique.
La musique de Rocky. J'avoue que des fois, c'est vrai que je me sens un peu comme un boxeur là, qui encaisse des coups. Dans Rocky, il dit, c'est pas la force des coups qui compte, c'est la capacité des encaissés et d'être capable de continuer d'avancer.
Je ne sais pas si c'est une citation authentique, mais en tout cas, continuer d'avancer, mais pas dans la même direction qu'avant, parce qu'il a changé de cap et a pris un virage à droite.
Si moi, j'ai changé. Vous avez changé. Tout le monde peut arriver à changer.
Voilà, peut-être que c'est ce qui va arriver avec la CAQ. Reste à savoir si Adrienne va lui permettre de s'essayer pour un troisième round.
Oh, bravo, Olivier. Merci pour ça. Merci. Et que c'est court comme jingle. Suivre l'actualité américaine, c'est du sport, des tarifs sur le cinéma, au prétendu sabotage de l'escalier roulant de l'ONU en passant par le Tylenol et l'autisme, ça brasse. On prend des nouvelles de la santé mentale des membres de la chaire Raoul Dandurand avec Frédéric Gagnon. Bonjour Frédéric.
Bonjour, vos aînés.
Et ça n'arrête pas une seconde. Là. Comment va la gang? Charles-Philippe David, Valérie Beaudoin, Raffi J.
La gang va très bien. Puis en fait, ce que j'ai fait là, quand je suis arrivé à la barre de la chaire Raoul Dandurand en 2016, je voyais que les chercheurs étaient déjà fatigués.
Déjà?
On était au début de Trump. Puis j'ai fait acheter des versions robots de chacun d'entre nous. Donc, par contre, ce sont des versions robots que vous voyez à la télé, c'est que vous entendez à la radio. Ça permet à nos chercheurs de se reposer. Ça nous permet d'être présents. Ah. Évidemment, le petit hic, c'est que vous savez pas qui vous parle en ce moment. Est-ce que c'est Fred Gagnon ou la version robot de Fred Gagnon? Mais habituellement, on voit pas trop de différence entre les deux. Là.
J'adore. Mais justement, je voulais savoir comment vous faisiez, vous, pour avoir le temps d'analyser tout ce qui se passe sans virer sur le top. Donc, hormis la version robotique, quels sont vos trucs, Frédéric Gagnon?
Ben, on suit ça au quotidien, évidemment. On n'a pas le choix. On a toujours notre appareil avec nous, même la fin de semaine, le soir, parfois même la nuit, quand il y a un tweet, on doit absolument regarder. On suit ça sans arrêt. C'est un petit peu épuisant, un petit peu éreintant. Puis parfois, on part en voyage aussi, puis on laisse le téléphone de côté quand on peut le faire. Mais ce qui fait que ça marche de notre côté, c'est qu'on a vraiment une grosse gang à la chaire. On a une dizaine de personnes, une douzaine de personnes qui font des médias, qui aiment en faire, qui aiment participer au dialogue, au débat public sur ces enjeux-là, sur la manière dont ça nous affecte aussi. Des gens très volontaires, une belle gang là, qui aime bien faire ça au quotidien.
Bien, parlons-en du débat public. Vendredi dernier, Véronique Yvon disait à nos collègues de Tout un matin que la couverture de la politique américaine qu'on fait dans les médias d'ici, ça la rend inconfortable. Elle se demandait si c'est notre politique à nous, surtout quand on relaie des enjeux de politique intérieure. Vous en pensez quoi, vous, Frédéric? Est-ce qu'on aurait dû ne pas vous inviter aujourd'hui? Est-ce qu'on accorde trop d'attention à ce qui se passe aux États-Unis?
Je pense que non, parce que quand on le voit, là, quand on est dans un repas familial ou entre amis ou on rencontre des gens dans la rue, les gens nous posent des questions tout le temps. Ils nous demandent qu'est-ce qui va arriver, pourquoi Trump a été réélu, où va la démocratie américaine, est-ce que ce pays-là est au bord de la guerre civile. Donc les gens sont inquiets parce que c'est notre principal partenaire. On est très près géographiquement des États-Unis. On y va en voyage, peut-être un peu moins maintenant si on boycotte le pays, mais sur le plan économique, les décisions de Trump nous affectent directement. Les guerres commerciales en ce moment peuvent avoir des effets sur l'emploi dans toutes sortes de secteurs, l'aluminium au Saguenay-Lac-Saint-Jean et d'autres. Donc, les gens nous posent tout le temps des questions. Et évidemment, je pense que cette présence dans les médias permet un petit peu là, de répondre aux questions que les gens nous posent de toute façon dans la rue tout le temps.
Puis, il faut avouer que l'actualité américaine est très généreuse. Juste la semaine dernière, on a eu droit au retour de Jimmy Kimmel, au discours de Trump à l'ONU, la conférence de presse complètement sautée sur l'autisme, l'ex-directeur du FBI inculpé, l'annonce des troupes à être déployées à Portland. On en oublie certainement. À travers tout ça, quelle nouvelle est vraiment significative pour Frédéric Gagnon, le directeur de l'Observatoire sur les États-Unis?
Bien, évidemment, les fameuses publications sur Truth Social, à l'emporte-pièce, tout ça, Trump veut attirer l'attention. C'est le maître de ça. Il est le roi de l'économie politique, de la visibilité. Il est capable. Bon, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a beaucoup de bruit. Il y a des tweets. Il y a beaucoup de bruit qu'on laisse de côté, qu'on regarde pas trop. Mais disons, le discours à l'ONU, c'est quand même important. Bon, le président le donne régulièrement. Il faut quand même voir ce qu'il va dire là, parce qu'il y a des guerres à l'échelle internationale dont l'avenir dépend en fait des décisions de Trump. Qu'est-ce qui va se passer en Ukraine? Est-ce qu'il va annoncer quelque chose ce jour-là? Donc, ce discours-là était très important. Évidemment, ce qui nous préoccupe beaucoup à la chaire aussi, c'est la montée de la violence politique dans ce pays-là.
Ouais.
Les deux tentatives d'assassinat de Trump, l'assassinat de Charlie Kirk. Il y a des chercheurs aux États-Unis qui démontrent que à l'aide de sondages que des électeurs des deux partis, démocrates et républicains, sont un petit peu plus chauds à l'idée de recourir à la violence politique pour faire valoir leur point de vue. a empêché le retour de Trump à la Maison-Blanche, permettre son retour, comme on l'a vu en 2021, lors des attaques du Capitole. Donc, je réponds pas vraiment à la question, mais en fait, il faut faire un tri, c'est pas toujours évident, mais ce que je vous dirais, c'est qu'on... Certains d'entre nous disent souvent, plus souvent non aux demandes médiatiques que oui, parce que justement, des fois, on estime que la nouvelle dont on veut qu'on parle est peut-être plus secondaire ce jour-là, puis on explique que ben on devrait peut-être attendre au lendemain, voir des événements peut-être un peu plus importants que ce qu'on nous demande d'aller commenter.
Intéressant. Moi, comme animatrice, j'ai une question à vous poser parce que je cherche à avoir le bon vocabulaire en ondes. Puis en ce moment, on entend plein de termes pour décrire le modèle politique qu'instaure Donald Trump aux États-Unis. Autocratie, néo-féodalisme, techno-féodalisme, dictature, accident de char. Selon vous, c'est quoi le mot juste? Est-ce qu'on peut encore parler d'une bonne vieille démocratie sans faire d'aveuglement volontaire?
Non, j'aime bien accident de char, j'aime bien ça.
Oui, mais, c'est lui qui est bon.
Mais moi, le terme que j'emploie souvent, c'est celui de la tyrannie, au fond. Parce que les fondateurs américains craignaient la tyrannie. C'est de ça qu'ils parlaient quand ils ont créé ce système politique-là. Et ils ont dit, parce qu'ils n'aimaient pas la monarchie, ils ont dit, on va s'assurer autant que possible que le pouvoir ne sera pas concentré entre les mains d'une seule personne. Mm-hmm. Et ils ont créé un système politique qui n'est pas parfait, mais dans lequel il y a des contrepoids au pouvoir présidentiel. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que Trump essaie de réduire ça partout dans le système, et donc de faire glisser la démocratie américaine vers une tyrannie. Je sais qu'il y a des gens qui emploient d'autres expressions, fascisme et tout ça.
Ouais.
Bon, il y a toutes sortes de débats dans la littérature et dans les médias là-dessus. Moi, j'aime bien recourir au terme de tyrannie. Les fondateurs en parlaient, puis c'est ce que Trump est en train de faire avec ce pays-là. En réduisant les contrepoids à son pouvoir dans les universités, dans les médias, il exige une loyauté totale de la part des membres du Congrès. Il nous habitue à l'idée qu'il n'est pas obligé de respecter les décisions des cours et peut-être de la Cour suprême. Donc, c'est ça son projet, c'est ça qu'il essaie de faire en ce moment.
Mais là, une tyrannie, c'est grave pour ce que j'en comprends, Frédéric Gagnon. Pourtant, on a l'impression que le Parti démocrate n'existe quasiment plus, tellement ses élus sont silencieux. Est-ce qu'on se trompe ou on a raison de les chercher?
Non, on a raison de les chercher. Le Parti démocrate est un peu comme le Canadien de Montréal en reconstruction.
Ah?
Et ils vont essayer de gagner la Coupe Stanley à la présidentielle de 2028. Donc, ils ont encore 3 ans pour se préparer. Ils n'ont pas encore leur Lee Knudson ou leur Demi Dove, mais il y a quand même des visages dont on parle et qu'on va devoir surveiller en vue de ces élections-là. Alexandria Ocasio-Cortez, évidemment. Il y a 35 ans, il faut 35 ans pour être président des États-Unis. C'est prévu comme ça dans le cadre constitutionnel. Donc là, elle a l'âge pour ça. Gavin Newsom aussi, le gouverneur de la Californie, qui est en tête dans les sondages en vue de la fameuse course à la chefferie démocrate pour la présidentielle, les fameuses primaires. Donc lui, il est à surveiller. Mais ce qui est un peu inquiétant quand on parle de la santé de la démocratie américaine, c'est que il a monté dans les sondages quand il s'est mis à communiquer de la même façon que Trump sur les médias sociaux, en caps lock, en insultant Trump, en disant bon. Mais c'est ça, c'est un peu ça, je trouve. Moi, c'est un des enjeux que je saurais beaucoup. C'est cette façon de faire la politique qui est payante, au fond. Mais
dans ce cas-ci, on voyait pas une caricature, un peu?
Oui, tout à fait. Une caricature où il disait, en lettres majuscules, « Trump n'a pas d'énergie, il a mangé du poulet frit avant la conférence de presse. »
Oui.
Non, c'est vraiment la façon Trump de faire. Et ce qui est curieux, c'est que côté démocrate, ça semble être payant aussi parce que Gavin Newsom est favori en ce moment pour gagner les primaires. C'est pas démocrate en vue de 2028. C'est pas juste à cause de ça. Mais on a quand même vu un petit tournant quand il a commencé à communiquer comme ça sur les médias sociaux.
Barack Obama, à qui on a jadis reproché une certaine absence dans la discussion publique, appelle maintenant à une forme d'opposition dans la société civile. Est-ce qu'on la voit, cette opposition-là, en terminant, Frédéric?
Ben, on la voit, mais évidemment, si on est très critique de Trump et inquiet de ce qui se passe, on peut trouver qu'elle est timide, cette résistance-là. Hein, on l'a vu, il y a des chercheurs universitaires qui ont perdu des financements de recherche et qui n'osent pas être critiques du président parce qu'ils ont peur que ça aille encore plus loin. Mais bon, il y en a un petit peu. On a vu l'affaire Jimmy Kimmel aussi, le réseau qui tergiverse, qui dit, bon, on a peur des propos de Kimmel, l'effet que ça pourrait avoir sur notre avenir financier. Finalement, on rebrousse chemin, on remet Kimmel en onde. Donc, il y en a un petit peu de résistance, mais évidemment, on souhaiterait qu'elle soit un petit peu plus rapide, un petit peu plus forte, un petit peu plus rapidement. Mais je dirais que la date à surveiller, là, même avant la présidentielle de 2028, ça va être aussi les élections de mi-mandat de novembre prochain. où les démocrates, justement, espèrent reprendre la majorité dans l'une ou l'autre des chambres du Congrès, peut-être à la Chambre des représentants. Au Sénat, ça va être un petit peu plus compliqué, mais s'ils ont la Chambre en janvier 2029, au retour après l'élection, 2027, après l'élection de 2026, les démocrates pourraient tenir des audiences publiques, des enquêtes sur les actions du président. Peut-être qu'on apprendrait davantage de détails sur l'affaire Jeffrey Epstein. Peut-être que les démocrates lancerait une procédure de destitution contre le président Trump. On est un peu on est de retour dans ce film-là qu'on a vécu durant le premier mandat, si c'est ça qui se passe en novembre 2026.
Merci. Donc c'est pour ça
qu'on va revenir en parler et ça me fera plaisir de répondre positivement.
D'ici là, allez faire une sieste.
Ou dans ma version robot. Merci. La version robot sera là si je suis fatigué, mais là, je vais en faire une petite sieste.
Allez, hop. Merci Frédéric. Au revoir.
Allez, on s'aime. Bonne journée.
Salut, c'est Biz de Locolocas. Vous écoutez Simon et Tyler à La Journée est encore jeune.
Simon et Tyler, on s'en sort pas. Vous aussi, c'est l'actualité américaine qui a pesé sur votre bouton panique cette semaine.
Allô tout le monde, comment ça va? L'heure est grave. On sait pas si vous suivez les nouvelles, mais la liberté d'expression est en péril et les preuves sont là.
Aux États-Unis, les animateurs de talk shows se font retirer leurs émissions. Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Alex Jones.
Et c'est pas juste aux États-Unis, malheureusement. Même ici, à La Journée, ils ont cancellé JS de l'animation. Pierre Brassard a eu sa chance aussi, mais ils l'ont censuré encore plus vite.
On s'est même fait cancel, nous autres, avec. C'est pour ça qu'on n'a pas fait l'émission depuis 3 semaines. Et tout ça parce qu'on est supposément pas gentil avec l'équipe technique. Mais vous devez comprendre, on se pense meilleur qu'eux, fait qu'on leur parle de haut.
On a travaillé trop fort pour se rendre où on est maintenant et tout perdre pour des niaiseries. On a fini notre primaire, 5 ans au secondaire avec un diplôme du ministère de l'Éducation du Québec. Imaginez si tout ça, c'était pour rien.
Simon et moi, on veut continuer d'exercer notre droit de dire n'importe quoi à la Radio nationale. C'est pourquoi on a décidé de poser une action concrète pour faire changer les choses.
Le speech d'Antoine Bertrand à la Saint-Jean passé nous a tellement inspiré qu'on a décidé de vous écrire une ode à la liberté d'expression en utilisant des paroles de chansons populaires québécoises, nous autres aussi.
Oh.
OK, ça part.
Dans ma petite ville, on a mis quelqu'un au monde. C'était une Hawaïenne.
Ah ouais, embarque, ma belle. Je t'emmène à Rigaud. Ah ouais, Napi, ta pouta papi, dans le coffre à gants.
Ils sont tellement bizarres.
Les pieds dans le sable, les yeux dans l'eau, je suis tout nu sur la plage. C'est illégal.
Bonjour, la police. C'est à ton tour de te laisser parler de pieds de poule.
Alors je pousse ta grand-mère dans un beau grand bateau.
Hey, boule de gomme, serais-tu devenu Fu Manchu?
Je t'appelais dans la nuit pour te dire Balma Balma Samawaji la zigazon zinzon.
Toutes les 8 secondes, je joue de la guitare loadée comme un gun. Je suis un crotté.
J'aurais voulu être un fuck en Alaska, mais si j'étais un homme, je serais Doug Harvey.
Il est venu le temps du jour de l'an. Fais-tu frette? T'es-tu bien dans le fond de la boîte à bois?
Je lève mon verre à tous ceux qui se touchent dans le parc, ma gang de malades.
Mon arrière-arrière-grand-père, c'est une petite japonaise qui se cache les fesses avec les mains. Ah oui, nah, ah, ah.
Les boys, j'ai tué ma crazy mommy le temps d'un été 1987 sans point ni coup sûr. Funky Town.
C'est pas des films, ça.
C'est pas sûr, la fin, on
espère que ce poème vous a fait réfléchir. S'il n'y avait pas eu la liberté d'expression, on n'aurait même pas eu le droit de vous l'interpréter. Vous savez, en tant que défendeur de la liberté d'expression, on vient d'une longue lignée de gens qui ont donné leur vie pour ce combat.
Jésus-Christ voulait faire l'amour à son prochain, mais à cause de Ponce Pilate, il a été cancellé à mort sur une croix.
Ils ont assassiné Gandhi parce qu'il voulait aider des hobbits à détruire un anneau en le jetant dans un volcan.
Abraham Lincoln portait un gros chapeau et il avait une barbe et ils l'ont tué au théâtre.
Rosa Parks voulait conduire l'autobus et regardez ce qui lui est arrivé. Elle est morte de vieillesse en 2005.
À la fin de la journée, la liberté d'expression est le droit le plus fondamental de notre société. Je veux avoir le droit de dire librement les expressions que je veux. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, une pierre deux coups, vieux moteur que j'aimais. Pourquoi nous enlever la liberté de dire ces expressions-là? Hein?
On ferait jamais ça, Simon et Tyler.
C'était Simon Chat et Tyler Roux, Radio-Canada.
Demain, on n'est pas là, parce que c'est la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Suzy va être le mercredi. Bye-bye.
Merci.